Chapitre 7. L'hiver avait été pluvieux à cause d'El Niño, pour la seconde fois en moins de 5 ans, après plusieurs années normales. Un dérèglement climatique qui avait mis fin à la sécheresse en Californie. Le jour qui pénétrait dans la pièce par les fenêtres était si ténu, on aurait pu croire que la nuit tombait. Les eaux du lac, impassibles un peu plus tôt, s'étaient couvertes de crêtes blanches sous l'effet du vent à l'approche de l'orage. Gwyn sortit du four une plaque de muffins qu'elle déposa sur l'évier afin de la laisser refroidir. Dans le silence, le tic-tac de l'horloge murale se fit plus insistant. Jane était particulièrement sensible au bruit du temps depuis un mois. Il lui arrivait même d'entendre la trotteuse de sa montre, au point qu'elle avait pris l'habitude de l'enfermer dans la boîte à gants de la voiture ou de la glisser sous le coussin d'un fauteuil lorsqu'elle descendait dans un motel. Confrontée à un véritable compte à rebours, elle ne voulait pas que le temps se rappelle à elle avec autant d'insistance. Elle attendit que Gwyn ait rempli leur tasse de café pour demander « Gordon a-t-il laissé un mot ?»«
Pas un mot, pas un texto,
pas un message sur mon répondeur. Je ne sais même plus si je dois le regretter ou m'en réjouir. » Gwyn posa la cafetière et retourna s'asseoir en face de Jane. « Il y a toujours un carnet et un stylo dans le tiroir de ma coiffeuse, » reprit Jane. « Nick s'en est servi pour un dernier adieu, si je puis dire. » Les 4 phrases sinistres qu'il lui avait laissées lui glaçaient le sang chaque fois qu'elle y repensait. « Quelque chose ne tourne pas rond chez moi. J'ai besoin. Un besoin terrible. J'ai terriblement besoin de mourir, » récita-t-elle.
Gwyn reposa sa tasse de café avant d'en avoir avalé une gorgée.
« C'est très curieux. »
« Je suis d'accord, tout comme la police et le médecin légiste. » Nick a rédigé la première phrase de son écriture méticuleuse, avant d'écrire la suite de façon presque illisible, comme s'il avait perdu le contrôle de sa main. Les deux femmes retombèrent dans le silence, perdues dans leurs pensées.
« Quelle horreur pour vous. »
finit par murmurer Gwyn, de l'avoir trouvé comme ça. Le commentaire n'appelait pas de réponse. Jane, les yeux plongés dans sa tasse, comme si elle pouvait lire l'avenir dans le reflet du plafonnier sur le liquide, reprit la parole. Le taux de suicide aux États-Unis était tombé à 10,5 pour 100 000 à la fin du siècle écoulé. Au cours des 2 dernières décennies, il est remonté à son taux historique de 12,5, jusqu'en avril dernier où il a brusquement augmenté. En fin d'année, il s'établissait à 14 pour 100 000. En temps ordinaire, on dénombre 38 000 cas de suicide annuellement. Pour l'an dernier, cela représente 4 500 décès supplémentaires. De ce que j'en sais, le taux a grimpé à 15,5 sur le premier trimestre de cette année. En projection annuelle, on comptera 8 400 suicides de plus au 31 décembre prochain. Tout en citant ces chiffres, elle avait bien conscience de ne pas pouvoir les interpréter. Elle releva la tête et constata que Gwyn l'observait avec une intensité nouvelle.
« Ma chérie, dois-je comprendre que vous faites des recherches ? Je me trompe ou bien ces suicides cachent autre chose ?»
C'était le cas, mais Jane ne pouvait se permettre d'en dire trop, au risque de mettre Gwyn en danger. Cette dernière insista.
« Ne me dites pas que c'est à nouveau la guerre froide.
Y a-t-il beaucoup de militaires parmi ces 8 400 suicides supplémentaires ?»« Un certain nombre, mais dans une proportion normale. Toutes les professions sont concernées. On trouve des médecins, des avocats, des enseignants, des policiers, des journalistes. À ceci près que tous ces suicides se sont déroulés de façon étrange. » Il s'agit à chaque fois d'individus bien dans leur vie, qui ne souffrent pas de dépression et n'ont pas de problème d'argent. Aucun n'a le profil habituel des personnes ayant des tendances suicidaires. Une rafale de vent secoua la porte donnant sur le jardin et fit trembler la maison, comme si quelqu'un avait cherché à l'ouvrir avant de la trouver fermée à clé. Une lueur d'espoir se mit à briller dans les yeux de Gwyn, animant son teint.
« Vous voulez dire que Gordy a pu être... drogué ?» Qu'il ne savait pas ce qu'il faisait lorsqu'il s'est rendu au bord du lac avec cette arme?
Est-il possible? Je ne sais pas, Gwyn.
Je me contente de recueillir des indices dans l'espoir de leur donner un sens, s'ils en ont un.
Elle trempa les lèvres dans sa tasse, avant de s'apercevoir qu'elle avait assez bu de café.
Gordon a-t-il été souffrant à un moment ou à un autre l'an dernier ?
Je crois me souvenir qu'il a attrapé froid un jour.
Sinon, il a été soigné pour un abcès dentaire. Pas de vertige ? D'état confusionnel, de maux de tête ?
Gordon n'était pas du genre à avoir mal à la tête. Rien ne l'arrêtait jamais.
Je veux parler d'une vraie migraine, avec des troubles de la vision. Elle remarqua aussitôt que sa remarque avait trouvé un écho chez son interlocutrice. Quand est-ce arrivé, Gwyn ?
Lors du congrès, si jamais, au mois de septembre à Las Vegas.
Si jamais ?
L'Institut Gernsback réunit chaque année des auteurs de science-fiction et des spécialistes du futur pendant 4 jours pour leur demander de réfléchir à des questions de défense nationale. Quel type de menace négligée aujourd'hui est susceptible de prendre des proportions inquiétantes dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans ?
Elle posa brusquement la main sur sa bouche, le front barré d'un pli. « Que se passe-t-il ? »
l'interrogea Jane. Gwyn haussa les épaules.
« Rien. Je me demandais simplement si j'avais le droit de vous raconter ça. De toute façon, ce n'est pas un grand secret. La presse en a beaucoup parlé. Cet institut invite 400 personnes d'avant-garde, des officiers de tous les corps d'armée, des scientifiques de haut vol, des ingénieurs travaillant pour la défense, afin d'assister aux divers ateliers et de poser des questions. C'est un gros événement. Les conjoints sont les bienvenus. Nous assistons aux dîners et aux réceptions, mais pas aux ateliers. Il ne s'agit nullement d'acheter les gens.
Je m'en doute.
Il s'agit d'un institut apolitique, sans but lucratif ni lien avec le complexe militaro-industriel. Les personnes invitées payent leurs déplacements et leurs frais de séjour.
Gordy m'a emmené à ce congrès à 3 reprises. Il trouvait ça passionnant. Vous dites qu'il a souffert de migraines lors du congrès de l'an dernier ?
Pour la seule et unique fois de sa vie. Il a même dû rester couché pendant 6 heures le matin du 3e jour. Je voulais absolument appeler la réception pour qu'on lui trouve un médecin, mais Gordon a refusé. À part les blessures par balles, il était persuadé que tous les problèmes de santé s'arrangeaient d'eux-mêmes. Vous savez comment sont les hommes.
Jane sourit d'un air songeur. Je me souviens du jour où Nick s'est coupé avec un ciseau à bois en faisant des travaux de menuiserie. Il aurait eu 4 ou 5 points de suture s'il était allé à l'hôpital, au lieu de quoi il a nettoyé la plaie, mis une tonne de néosporine et serré le tout avec du ruban adhésif. J'étais terrorisée à l'idée qu'il meure d'une infection ou qu'il perde sa main, et il m'a répondu que j'étais mignonne.
Mignonne ? Je lui aurais volontiers collé une claque.
À vrai dire, je lui en ai collé une.
Et vous avez bien fait, sourit Gwyn.
Pour en revenir à Gordon, sa migraine avait disparu à l'heure du déjeuner, de sorte qu'il n'a manqué que 7 demi-journées. Faute de le convaincre de consulter, je suis descendue au spa et j'ai dépensé une fortune en massage.
Comment avez-vous deviné au sujet de cette migraine ?
L'une des personnes que j'ai rencontrées, un veuf de Chicago, m'a expliqué que sa femme avait eu une crise de migraine pour la première fois de sa vie, 2 mois avant de se pendre dans leur garage.
Cette femme avait-elle assisté au congrès si jamais ?
Non, ce serait trop simple. Je n'ai pas encore réussi à trouver de lien crédible entre tous ces gens. La femme en question dirigeait une association pour handicapés. D'après ses proches, c'était une femme joyeuse et active, très appréciée de tous.
Votre Nick a-t-il eu une crise de migraine inexpliquée, lui aussi ?
Il ne m'en a jamais parlé. Au cours des mois qui ont précédé les suicides suspects auxquels je me suis intéressée, plusieurs des victimes se sont plaintes de vertiges. Parfois de rêves inhabituels d'une grande intensité, ou encore de tremblements des lèvres et de la main gauche qui disparaissaient au bout d'une semaine ou deux. D'autres avaient un goût amer dans la bouche, par intermittence. À chaque fois des symptômes différents, généralement peu inquiétants. Panique. Rien de rien.
Vous avez interrogé les conjoints de ces gens, j'imagine.
Oui.
Combien en avez-vous rencontré ?
22 en tout avec vous. Je sais, ajouta Jane en voyant l'expression de Gwyn. Vous allez dire que ça tourne à l'obsession, que je suis folle.
Vous n'êtes pas folle, ma chérie. Mais on a parfois du mal à passer le cap.
Où comptez-vous aller ensuite ?
Je voudrais voir quelqu'un à San Diego.
Elle recula sur son siège.
J'avoue que ce congrès de Las Vegas m'intrigue. Auriez-vous gardé une brochure détaillant les ateliers par hasard ?
Je devrais pouvoir trouver ça dans le bureau de Gordon au premier.
Je vais monter voir.
Encore un peu de café ?
Non, je vous remercie. J'en ai déjà trop bu au petit déjeuner. En revanche, j'ai besoin d'aller aux toilettes.
Elles sont dans le couloir. Venez, je vais vous montrer.
Quelques instants plus tard, heureuse de se laver les mains dans un lavabo sans toile d'araignée, Jane se regarda dans la glace. Elle se demanda une fois de plus si elle avait bien fait de se lancer dans une telle croisade. Elle avait tant à perdre, et pas uniquement la vie. Sa vie ne comptait pas. Le vent qui balayait le toit s'engouffra dans la gaine d'aération en visitant successivement les étages de la maison, à la façon d'un troll quittant son refuge pour observer le paysage.
Jane sortait des toilettes lorsqu'un coup de feu retentit à l'étage.